Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Bruno Le Maire annonce 10 milliards d'euros d'économies imprévues, sans hausse d'impôts, dit-il. Il veut bien sûr d'abord fonctionner par simple décret d'annulation de crédit, ce qui évite d'aller jusqu'à la loi de finances rectificative devant le Parlement, qui est l'assurance de devoir utiliser le 49.3 et d'affronter une motion de censure au moment des européennes. C'est évidemment du coup de rabot à la va-vite, de manière à éviter une dégradation de la note souveraine de la France, qui risquerait de faire monter les taux des obligations publiques et donc de faire monter la charge des intérêts de la dette. La promesse de ne pas augmenter les impôts est-elle tenable ? On se posera la question. En tout cas, les critiques ont commencé à fuser avec des mots tels que austérité ou encore coup de canif dans les politiques environnementales. On jettera un œil sur ces marchés qui ne connaissent pas la crise, les marchés financiers, où vraiment trônent des stars totalement indéboulonnables. Les sept magnifiques, on en a déjà parlé, les granolas aussi, qui en fait ne sont pas, enfin sont 11, et puis les calls, comme Helmut. Mais là, ils sont tous français. Pourquoi y a-t-il un tel écart de productivité entre l'Europe et les États-Unis ? On posera la question. Gilles Babinet, dans les colonnes des Échos, aujourd'hui se demande pourquoi l'État français est si incapable à utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour se moderniser, notamment. Et puis cette proposition du patronat, le CDI senior, pour les plus de 60 ans. Plus de 60 ans est embauché en CDI, mais éventuellement payé moins cher qu'avant. Alors l'assurance chômage fera le job et elle comblera la différence. On fera un petit mot de la SNCF, une nouvelle grève est prévue le week-end prochain. Cette fois-ci, les aiguilleurs s'y mettent. Depuis 1947, jamais cette compagnie n'a vécu une année sans une grève. Bonjour Emmanuel Combes.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Vous avez coécrit le transport aérien à la découverte, notamment parmi les derniers publiés. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole et Gilles Raveau, bienvenue Gilles.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis et auteur de Économie, on n'a pas tout essayé, au seuil. 1% de croissance contre 1,4%. Les quatre chiffres à retenir d'hier. Le deuxième chiffre, 4,4% de déficit comme prévu. Le troisième chiffre, zéro. Zéro hausse d'impôts. Le quatrième chiffre, 10 milliards d'économies nouvelles pour tenir le cap. Comment fait-on 5 milliards à trouver dans les dépenses de fonctionnement de l'État ? Chaque ministère va devoir gratter par renouveler un parc de flotte automobile, renoncer à rénover une partie du bâtiment ou encore faire moins de déplacements, moins de voyages, faire des économies d'énergie, que sais-je. Puis 5 milliards d'économies sur les politiques publiques, 1 milliard venant de l'aide au développement, 1 milliard venant de MaPrimeRénov', dont le budget passe de 5 à 4 milliards d'euros. Il reste 600 millions d'euros plus élevés en 2024 qu'en 2023. 1 milliard de moins pour les opérateurs d'État qui s'appellent Business France, France Travail, Météo France, le CNRS, l'Office National des Forêts, même les universités, Gilles Raveau. Mais enfin, je ne pense pas qu'on va toucher aux universités malgré tout. Et donc, zéro hausse d'impôts. Vous avez vécu comment la séquence, Christian Poyot, hier ? Courte, hein. Ça a duré sur le journal de TF1, je pense même pas 7-8 minutes, hein, à peine.
Oui, c'est dommage parce que c'est un sujet éminemment structurant. Hein. Ça fait la une de BFM Business. Je suis malheureusement pas sûr que ça fasse la une de vos confrères aussi, alors que c'est un sujet très important. Et c'est un sujet important, pas uniquement du point de vue financier, technique, tout ce qu'on voudra.
Ou les non, là, Français... c'est vraiment traité de manière basique et technique. Hein.
Oui, oui, mais moi, ce que j'aurais tellement envie, c'est que les Français comprennent que c'est un vrai sujet structurant de la manière dont on veut vivre, dont on veut se développer, dont on veut faire croître la France. Ouais, c'est pas juste un sujet financier, monétaire, de marché ou tout ce qu'on voudra, etc. C'est le cœur de la manière dont on veut continuer à développer notre pays et la manière dont on veut vivre.
Voilà, mais Fitch et Moody's n'attendront pas qu'on ait mis tout ça en place.
J'entends, mais ça, c'était un peu pour placer le débat. C'est pas juste un débat d'experts. Enfin, nous sommes les meilleurs experts de la planète, on en conviendra évidemment, mais c'est un sujet qui concerne monsieur et madame tout le monde. Ça concerne tout le monde. Bon, alors, pas de hausse d'impôts, évidemment, en tant que chef d'entreprise, je vais pas vous dire le contraire, ou en tant que d'ailleurs que citoyen, l'IRPP qu'augmente pas, on est quand même dans les niveaux de taxation les plus élevés au monde. Donc, personne va se être contrarié par cette décision, mais elle est quand même globalement de bon sens. Après, que dire que, enfin, on va redire des choses qui ont été dites 100 fois. Les Français sont drogués à la dépense publique. On est assisté surtout. Il y a cette fameuse démonstration. On démarre, on se lève, et puis on est assisté sur, je sais pas quoi. Enfin, toute la journée, on a des aides en permanence. Voilà.
C'est le sketch assez sympathique que camarade François Langlais avait fait sur LCI avec son personnage qu'il avait appelé Pierre Touche-Tout, qui, dès l'instant où il se réveille jusqu'au moment où il se couche, quelquefois sans même s'en rendre compte, est sous perfusion d'argent public à tous les niveaux.
Alors, moi, je ne suis pas un expert des finances publiques, donc entre la partition entre les investissements et puis les dépenses des ministères, effectivement, trouver 5 milliards dans les dépenses des ministères, ça sent un petit peu, ou alors ils vont couper carrément le chauffage. Vous me direz, il fait moins franchement, c'est peut-être pas grave, mais bon. Ceci étant, il y a des tas d'endroits dans lesquels l'État peut réduire considérablement ses dépenses. Hein. Ça va autant des choses, les nombreuses agences dont les recouvrements sont pas toujours très utiles, on en parlait en antenne, on démarrait, les aides sur je sais pas quoi, la réparation des vêtements, enfin il y a tout un tas d'endroits dans lesquels on pourrait économiser énormément. Maintenant, si on essaye de peut-être d'élargir le débat, le sujet de base c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas assez en France, donc on ne produit pas assez de richesses, donc on ne génère pas assez d'impôts sur les revenus, sur les sociétés, sur la TVA, etc. Il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes la base de tout ça, c'est qu'il faut qu'on travaille plus. Vous avez évoqué un sujet qui est la différence de productivité entre les États-Unis et l'Europe. Bah, le principe de base, il est là. C'est que les Américains travaillent plus que nous, donc mécaniquement, ils génèrent plus de richesses. Donc, en même temps, on veut être couvert surtout, avoir des protections dans tous les sens, etc. Être les meilleurs du monde sur la partie écologique, c'est plutôt pas mal. Simplement, on construit des normes qui nous pénalisent. Et en même temps, on veut être aidé dans tous les sens et pas d'impôts. Enfin, il faut qu'on sorte de ce paradigme. Donc, le gouvernement... Alors ok, là c'est une première décision de toute façon qui lui est imposée effectivement par les marchés, mais il est impératif que collectivement on prenne conscience de ça et qu'on fasse tous des efforts. Alors des efforts qui doivent être plus ou moins adaptés selon la situation de chacun, bien évidemment, les gens qui sont dans une situation plus compliquée que d'autres, il n'y a pas de problème là-dessus, mais globalement il faut aller dans ce sens-là. Alors je ne serais pas comme l'éditorial de Bavrez dans Les Échos qui est totalement
catastrophique. Bavrez, il dit, ça y est, le mur de la dette arrive.
Voilà, qui est tellement catastrophique. Enfin, c'est une analyse de grande qualité.
Mais il est constant, toujours... Nicolas Bavrez.
Oui, il est toujours
le mur de la dette est toujours à 50
centimètres. Il faut ouvrir la fenêtre et sauter. Bon, ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a aussi plein d'atouts. Mais encore une fois, la prise de conscience que ce n'est pas un sujet financier et monétaire et technique et théorique, mais c'est un sujet du quotidien, est primordial. Voilà.
Bon. Emmanuel Combes.
Non, mais je rebondis sur ce que dit Christian. Il y a l'urgence du court terme. Il n'avait pas d'autre choix que d'annoncer cela.
Donc on est d'accord sur ce.
Non, mais il n'a pas d'autre choix.
Court,
il y a le court terme, c'est juin, c'est éviter la dégradation. Hein. Donc on est d'accord. Donc il n'y a pas d'autre levier. Si vous voulez
on pas. Veut pas de loi de finances rectificative. Si on veut rassurer tout le monde avant.
Ah oui, si vous voulez pas revenir sur votre promesse qui est de dire j'augmente pas les impôts et que la croissance diminue, bah il n'y a pas 50 000 choses. Il faut baisser les dépenses publiques. Non, je rejoins Christian sur un point, mais ça c'est en effet l'économiste qui parle. C'est que ce qui est important, c'est le long terme, c'est-à-dire les réformes structurelles. Il y a qu'une solution si vous voulez à terme. En effet, ne pas avoir besoin de faire de coupes de dépenses publiques, parce que les Français sont drogués à la dépense publique, je ne suis pas sûr qu'on en sorte de la drogue. Mais il n'y a qu'une solution, c'est en réalité avoir plus de croissance, et là on rejoint toujours les mêmes sujets, qui est le problème des gains de productivité. Il n'y a pas de gains de productivité en France, et on connaît les solutions.
On les perd même.
On connaît les solutions, alors moi je mets l'accent sur une de ces solutions.
Mettez-moi une petite solution, j'aime bien.
Parce que c'est mon domaine d'expertise, mais on voit bien les réformes structurelles en matière de concurrence, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas fait, ou s'il y a eu la loi Macron en 2015, j'exagère.
C'était
il y a 9 ans. Mais les grandes réformes structurelles de concurrence, c'est quoi très concrètement? C'est pas seulement déverrouiller des marchés, c'est typiquement les conditions de diplôme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de diplôme pour exercer certains métiers. Il y a une question de proportionnalité. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Vous avez énormément de métiers, notamment manuels, dans lesquels les normes ne sont plus adaptées aux besoins. Donc ce grand toilettage-là, le problème, c'est quand vous faites un toilettage, vous allez toucher à des rentes. Vous voyez bien qu'une barrière, ça empêche à des nouveaux de rentrer, ça protège ceux qui sont déjà là. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la loi Macron 2, qui prévoit un volet concurrence. Je prends un exemple qui est anecdotique. Je vous dis pas que c'est avec ça qu'on va sauver la France, mais le permis de conduire.
Oui.
800 000 personnes chaque année. Ben, oui, le permis de conduire, oui, ça permet à des personnes qui sont éloignées du marché du travail d'accéder à l'emploi. Donc c'est un sujet anecdotique, mais vous multipliez comme ça les réformes sectorielles pro-concurrence. Ce que j'appelle pro-concurrence, c'est ouvrir les marchés. Hein, ça veut pas dire qu'il faut pas déréguler, hein. Il faut mettre des régulations proportionnées. Et là, vous aurez un impact sur la productivité. Pourquoi? Parce que la productivité, ça dépend de quoi? Ça dépend notamment de la capacité d'une personne à quitter un emploi en déclin pour aller vers une entreprise en croissance. Ça s'appelle les réallocations intersectorielles d'emploi. Et qu'est-ce qui fait qu'on bouge? que le logement, on en trouve facilement, autre problème, qu'on ait un permis de conduire, etc. Donc vous voyez, toutes ces réformes structurelles, à terme, ça fait des gains de productivité. Mais je rejoins Christian, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Donc en fait, on paye aujourd'hui finalement notre manque de réformes structurelles.
C'était, vous parliez des barrières qui nuisent à la politique de la concurrence, souvent barrières souhaitées par des rentiers, c'est exactement la thématique qui était mise en lumière par Marc Vigneault de l'Opinion vendredi ici même, et c'était assez vrai quand même.
Et complètement.
Monsieur, passer en troisième, Gilles, ça peut être sympa, ça peut être compliqué.
Je suis scandalisé, monsieur Dose, d'habitude. J'ai droit à ma conférence inaugurale quand j'arrive ici, bon, je ne sais pas ce qui se passe.
Bon.
Vous êtes chafouin ce matin,
j'ai l'impression. Non.
Non, alors juste, je vais faire mon petit prof, moi aussi, même si c'est pendant les vacances.
Je ne suis pas petit prof, je suis juste économiste.
On va faire les révisions. Donc là, effectivement, c'est un bel exemple, hein, c'est un exemple vraiment digne de cours ou de manuel première année. Donc petit rappel sur le policy mix, hein, c'est-à-dire la combinaison des politiques monétaires et budgétaires. Vous avez deux cas pour chacune, et donc ça vous fait quatre cases, donc qui vont s'afficher dans le cerveau de nos auditeurs. La politique monétaire soit peut baisser les taux d'intérêt ou les augmenter. Si elle les baisse, c'est favorable à l'activité. Si elle les augmente, c'est défavorable à l'activité. Et la politique budgétaire peut soit être favorable à l'activité, on accroît les dépenses publiques ou on baisse les impôts. Et à l'inverse, la politique budgétaire peut être restrictive. On augmente les taxes ou on diminue les dépenses publiques. Et donc, vous voyez qu'on a quatre cases et donc on peut avoir soit deux politiques très expansionnistes, hein, monétaires et budgétaires, soit à l'inverse, deux politiques restrictives. Et aujourd'hui, on est de toute évidence en Europe. Et dans le peu de choses qu'a dit Bruno Le Maire hier, il a dit une chose très juste, hein, c'est que la conjoncture est défavorable, mais elle est défavorable pour des raisons très profondes, hein, qui est le niveau très élevé des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, dont on sait qu'ils vont baisser cette année, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas de combien. Et donc ça, pardon, évidemment, c'est une grosse erreur de ne pas l'avoir inclus dans la prévision de croissance pour cette année, puisque ça, on le sait tous, hein, les macroéconomistes, depuis au moins 6 mois, si ce n'est 1 an. Et d'autre part, effectivement, on a ce retour, hein, au niveau de l'Union Européenne du pacte de stabilité, puisqu'il y a eu des annonces très claires de la Commission Européenne en novembre dernier, qui a mis la France dans les pays qui n'allaient pas tenir ces engagements budgétaires. Et je vous incite à retrouver la presse de novembre 2023, c'est-à-dire il y a quand même extrêmement longtemps, où vous aviez le gouvernement français, Bruno Le Maire, disant « Bien sûr que nous allons tenir nos engagements budgétaires. »
Clairement, il l'a dit comme ça. Oui.
La France tient toujours ses engagements budgétaires.
J'ai lu cette phrase.
Voilà, on peut insérer des rires quand on fera le replay.
Donc on va la mettre France... des rires comme dans Benny Hill.
Non, mais vous avez quand même Bruno Le Maire qui a quand même dit à la Commission européenne que la France tenait toujours ses engagements budgétaires auprès de l'Union européenne, alors qu'elle les tient à peu près jamais depuis la création du pacte de stabilité il y a 25 ans.
Ça va mieux en le disant, comme écrivait Télérama.
Voilà. Et donc, pas le choix. Puisqu'on est ici pour faire des propositions, et que je suis un garçon sont responsables et sérieux, extrêmement inquiets effectivement de l'effondrement de notre pays qu'on constate ici chaque matin, c'est que je propose, et évidemment ça n'arrivera pas, mais qu'il faudrait retirer la prévision de croissance qui est centrale dans le budget chaque année des mains du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une réforme très simple à faire, qui évidemment ne sera jamais faite parce que nous n'avons pas d'hommes politiques et de femmes politiques responsables, c'est de dire vous faites la moyenne, éventuellement pondérée, des prévisions de croissance des instituts de conjoncture et des gens intelligents, honnêtes, indépendants en France, en Europe et dans le monde. Vous faites la moyenne de ça, vous faites votre budget là-dessus, et ensuite il se passe deux choses. Soit ces gens-là ont eu raison et vous évitez le truc clownesque d'hier soir, qui n'est que le début d'une longue série. Toute l'année, on va nous entendre. Ça va être la panique pour les agences de notation. Ensuite, ça va être la panique à Bruxelles, au printemps, etc. On va nous fatiguer toute l'année avec des bêtises budgétaires sans aucune vision d'avenir, comme vous l'avez très bien dit, parce qu'on n'est pas raisonnable en France, qu'on n'est pas sérieux. Donc, encore une fois, vous faites la moyenne pondérée des prévisions de croissance, des objectifs. Vous le mettez dans votre projet de loi de finances. Je termine, Emmanuel, merci. Et si jamais ils se sont trompés en bas, et que la croissance est supérieure, tant mieux pour vous. Mais rendez-vous compte à quel point c'est décrédibilisant pour l'ensemble de la politique d'avoir un ministre de l'économie de la France qui vient nous présenter un plan de gribouille fait sur un coin de table par un membre du cabinet en 2 secondes, alors qu'on a des gens très sérieux à Bercy, etc., sur l'évolution de nos dépenses publiques. Voilà ce à quoi on a assisté hier. Je suis désolé, c'est grave.
Retirer à Bercy la prérogative de fixer la prévision. Si on avait fait la moyenne pondérée, comme vous dites, Gilles, on serait pas à 1, mais à 0,8. Hein.
Oui, et bien très bien.
Mais
et
pardon.
Très bien. Justement, dans les dernières informations, je ne sais pas qui a raison, je ne suis pas prévisionniste, mais l'OCDE la prévision de croissance pour la France cette année, c'est 0,6.
Et c'est 0,8 pour l'OFCE, oui.
Et c'est 0,8 pour l'OFCE, ouais. C'est ça. Et c'est 1 pour le FMI, voilà. Mais si on avait fait 0,8, encore une fois, vous prévoyez moins, tant mieux.
Ah ben quand vous avez prévu moins que la réalité, ben oui. Les choses se passent bien car les recettes sont supérieures aux prévisions.
Et est-ce que c'est pas mieux pour tout le monde ?
Oui, ben écoutez...
Ben voilà.
Alors après, l'argument de Bruno Le Maire, deux arguments, et je vous fais réagir, Emmanuel. Non, non. Hier, il a fait un petit brief après, avec quelques journalistes par téléphone. Il dit « Combien de personnes m'avaient dit que 2023 serait une catastrophe et que la récession nous guettait ? Nous terminons à 0,9, j'avais prévu 1. » Donc il a son track record de 2023 pour dire qu'il n'a pas eu tort.
Alors, j'ai relu.
Oui. Les 10 milliards que peut-être gribouillent, en tout cas, il indique, et c'est vrai parce que j'ai regardé, uniquement en agissant par décret d'annulation de crédit, unique, pas par PLFR. Mais annulation de crédit, jamais on a affiché un chiffre d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros. C'est un chiffre élevé par rapport à ce qu'on a, par le passé, généralement mis en avant.
Alors, cher Bruno Le Maire, je vous réponds dans l'ordre inverse de vos remarques. Première remarque,
et maintenant, il m'a rebaptisé.
Vos 10 milliards d'économies, tout le monde sait que vous ne les ferez pas, c'est certain. Mais comme les journalistes français sont paresseux, personne n'ira vérifier à la fin de l'année.
Excusez-moi.
Premier point. Deuxième point.
Il m'appelle Bruno Le Maire et il dit que je suis paresseux.
Non. Gilles a une forme de naïveté, en fait.
Deuxième point sur la croissance 2023. J'ai relu la note de conjoncture de l'INSEE concernant le second trimestre. On a fait 0,5% de croissance au second trimestre en 2023 contre 0,1% qui était prévu. C'est ça qui a sauvé les fesses de Bruno Le Maire en 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a vendu un paquebot et qu'il y a eu un effet sur la comptabilité nationale. On a un trimestre exceptionnel au second trimestre l'année dernière. Tous les autres indicateurs de demande interne, un rappel pour les étudiants, la demande interne, consommation des ménages, FBCF, formation brute de capital fixe des entreprises, étaient déjà orientés à la baisse et ça a été la suite sur les trois trimestres de 2023. Donc,
allez, Sinon,
c'est pas
Je termine. Le maire a eu un gros coup de bol en 2023. Voilà, et donc il n'y a pas de quoi être fier.
C'est vrai que quand on voit des paquebots ou des avions, ça va mieux. Emmanuel Comte.
Essaye, Gilles, de dialoguer, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans un long tunnel monologue. Non, juste peut-être deux remarques. Une première, mais très rapide, parce que je ne vais pas polémiquer avec Gilles, je suis à la fois complètement d'accord et pas du tout d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a une forme de naïveté de la part de Gilles à penser que, mais personne n'y croit, personne n'y croyait aux prévisions de 1,4%. Il suffit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment prendre les économistes ou les gens, les sachants pour des naïfs. Oui, tout le monde regardait les prévisions.
Du moment où vous construisez un budget sur du 1,4, il y a une quantité de recettes.
Ça s'appelle de la politique, pardon.
Oh oui, non.
Ça s'appelle de la politique. Mais je veux dire, c'est comme si vous. Enfin, il suffit pas de dire quelque chose pour qu'on le croie. Tout le monde regardait les statistiques au CDE. Le CDE, je relis, 0,6%, Banque de France 0,9, Commission 0,9. Ça, on le savait depuis des mois. Donc, en réalité, il fait de la politique. Nous faisons de.
L'économie.
Alors, ouais, Gilles nous dit que c'est un problématique, c'est problématique qu'il fasse de la politique. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin, il est homme politique.
Mais c'est un peu naïf que de penser. Mode de fixation de la prêve de croissance, pourquoi pas
Ça changerait pas grand-chose. Non, ça changerait rien au fait qu'on a une croissance très faible pour moi.
Oui.
Non, je voudrais revenir sur un point. Ce qui m'inquiète dans cette histoire de baisse des dépenses publiques, des baisses de dépenses de l'État, c'est qu'on va couper dans les politiques publiques. Mm-hmm. Et je regardais un peu ce qui a été annoncé, notamment ma prime rénov. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation du plan de relance par Xavier Jaravel et l'inspection des finances il y a quelques mois.
France 2030.
Ouais, c'était vraiment intéressant le travail qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient classé toutes les primes pro-environnement en fonction de leur efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par efficacité ? C'est lorsque je mets un euro de dépenses publiques, combien j'économise en carbone ? Et on trouvait pour ma prime Rénov, c'est à peu près 4,5 milliards, je crois, de dépenses publiques.
Ce sera 4 milliards cette année.
Ouais, on trouvait un coût budgétaire de 70 euros la tonne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une tonne de CO2 en moins, ça coûtait à l'État 70 euros. Ce qui n'est pas complètement absurde quand on voit le prix de la tonne de carbone sur le marché, c'est autour de 80 euros. Par contre, le bonus voiture propre, ça revenait à peu près à 600 euros la tonne économisée. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça serait intéressant, avant de faire des coupes, sans regarder quelles coupes on fait, de bien choisir les bonnes coupes et de sélectionner surtout les dépenses publiques les moins efficaces. En clair, celles qui coûtent le plus cher lorsqu'on les compare aux économies de CO2 que l'on fait. Et en tout cas, sur ma prime rénov, j'ai envie de dire, ça semble pas être forcément la meilleure décision possible. Donc attention, on va avoir en plus une contradiction entre un objectif de court terme de baisse des dépenses publiques et un objectif louable de long terme de transition écologique.
Vous êtes le deuxième en 4 jours à nous faire des calculs scientifiques sur le côté coût-efficacité en termes de prix de la tonne de CO2.
Je lis les rapports.
Oui, à part que moi j'adore entendre ces calculs-là parce qu'ils sont très éclairants. Lionel Fontanier nous a fait un calcul redoutable jeudi dernier sur le prix de la tonne de CO2 économisée avec le leasing à 100 euros. Oui. Alors, c'était juste fascinant. Alors, on était bien au-delà de 600 euros la tonne. On a 55 secondes, on marque une pause, mais j'y reviens après.
Ouais, on va quand même pas reprocher à Bruno Le Maire d'être impolitique. Enfin, c'est normal. Ouais. Et je ne suis pas d'accord avec la proposition de dire que l'objectif de croissance de la France soit fixé par des économistes aussi brillants soient-ils, bien évidemment. Et tous les pays font ça. Je veux même pas, on va pas parler de la Chine, parce que là, on est dans le domaine du délire le plus complet. Mais les autres pays le font, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Enfin, et puis après, il y a une notion de fixer un cap. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, arrêtons de dire que la France, je sais pas, va se décomposer. On a des tas de forces, il y a des tas de sujets où on est très bon, on a des capacités à rebondir, etc. D'ailleurs, au passage, je vais redire ce qui a été dit il y a quelques temps, en 2023, il faudrait repasser les replays de nos émissions, peut-être pas spécialement moi, enfin j'en sais rien, mais début 2023, c'était la cata totale. On partait dans une inflation absolument pas maîtrisée. Enfin, voilà. Je dis pas que 2023 était extraordinaire, mais en tout cas, elle était très largement meilleure que celle qui avait été prévue début 2023 par le...
Ah bah si, c'est... On marque une pause, si vous voulez qu'on fasse le bilan 2023 et qu'on s'écharpe pour savoir...
Est-ce que c'est le rôle de la politique de fixer un cap volontariste pour dire qu'effectivement on doit atteindre 1% de croissance? Bah bien sûr que c'est son rôle. S'il le fait pas lui, qui est-ce qu'il fera?
On déroule les sujets dans un instant. J'aimerais quand même qu'on jette un œil sur cette promesse ultra répétée par Bruno Le Maire: je n'augmenterai pas les impôts. J'ai 2-3 bémols quand même, mais j'aimerais avoir votre avis. Puis on regardera ces fameuses stars indéboulonnables des marchés financiers qui tirent les marchés à la hausse dans un monde pourtant peu réjouissant. Et c'était une idée soumise par Emmanuel Combes ce matin. Vous allez voir, c'est sympa. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec aujourd'hui Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur à la Schema Business School, qui coécrit le transport aérien à la découverte. Avec nous aujourd'hui Christian Poyot, PDG de Micropole, et Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé. Cette auditrice Caro me dit président. Gilles Raveau, président, vous êtes candidat?
Non, moi tant qu'il n'y a pas de poste de dictateur éclairé, ça ne m'intéresse pas.
Dictateur éclairé, ouais. D'accord.
Tu seras plutôt dictateur ou plutôt éclairé?
C'est pas, je...
La proportion va se déterminer.
C'est moi, ça
je,
le sujet.
Je propose de confier à Gilles Raveau la détermination de la prévision de croissance 2025 de la France. Ouais. 10 milliards, ce n'est pas suffisant. Tout le monde le sait, m'écrit Pierre. Bravo à
c'est
tous.
Ça, ouais.
Bravo à tous.
C'est ça, c'est grotesque.
Oui, et pourtant, je vous dis, en termes d'annulation de crédit par décret, c'est du jamais vu. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que 2023, c'est mieux passé que prévu?
Non.
Comment ça, non?
Non, parce qu'encore une fois, j'ai relu les notes de l'INSEE de l'année dernière, et encore une fois, c'est absolument incroyable. On a un seul trimestre qui est bon sur les quatre.
Oui, mais au final, c'est la réalité. Gilles, peut-être qu'il y a eu un effet d'aubaine
Ça n'est pas la réalité. Par rapport à ce qui vous intéresse. Enfin, oui. Pardon. Évidemment, c'est la réalité.
Oui.
Évidemment, attention, les gens de l'INSEE font extrêmement bien leur travail. Et évidemment, le PIB, l'année dernière, a bien cru d'1%. Mais si on concerne l'activité économique du pays, sur les grands indicateurs que sont la consommation, l'investissement, on a quasiment stagné.
Oui, mais alors là, sur conso-investissement, bah oui. Gilles a objectivement raison.
Bah oui, c'est
oui,
ça.
Oui, je suis d'accord, mais encore une fois,
voilà, c'est tout.
Là, il y a les chiffres qui par nature, sont.
Non, mais c'est ce qui gouverne l'emploi, Christian.
Et après, il y a ce qu'il y a dans la tête des gens. Moi, j'entends très souvent l'économie française est au tapis, rien ne fonctionne.
Il ne faut pas dire que Nicolas Bavrez, Christian.
Moi, je suis un naturel optimiste. Voilà. Quand on est chef d'entreprise, on regarde toujours le verre à moitié plein et on avance. Sinon, si on se met à pleurer, s'arrêter de se mettre à pleurer, ça n'a jamais réglé un sujet. Donc, 2023 était une année qui a été plutôt relativement résiliente. Voilà.
Il y a Nicolas Bavrez, il écrit de page 17 du Figaro: nous sommes programmés pour nous fracasser sur le mur de la dette.
Ça fait 15 ans qu'on entend parler.
Oui, oui, vous savez bien, vous finissez toujours un jour par avoir raison. Enfin, d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'un pays comme la France peut se retrouver rattrapé par un incident de crédit, un risque souverain?
Ça semble assez peu probable, hein, quand même, globalement.
Oui. Oui, je pense surtout que ça montre les limites du travailler plus. C'est-à-dire que je pense que Nicolas Bavrez, qui commence à être bien âgé, ça serait mieux pour tout le monde s'il travaillait moins. Voilà.
Ça, c'est très méchant.
Bon,
c'est
méchant.
Bon,
c'est méchant. Il est plus dictateur qu'éclairé.
Alors, parlons plus du fond.
Un mot sur le. Parce que je ne cesse d'entendre notre ministre de l'économie dire pas de hausse d'impôts. Quand on regarde Ce que j'appelle les cathédrales de la fiscalité sont sanctuarisées. On ne touche pas à l'IR, on ne touche pas à l'IS, on ne touche pas à la TVA, on ne touche pas à la CSG, on ne touche plus à la taxe sur les carburants. Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé, la taxe foncière avec la revalorisation des valeurs locatives, elle augmente. La TICGN sur le gaz naturel, elle a doublé. La TICPE sur l'électricité, elle a augmenté. Sur le tabac, ça a augmenté. On vient de retirer 1000 euros au bonus écolo. Alors, c'est de la dépense fiscale en moins, mais enfin, c'est quand même de l'argent en moins dans certaines poches. On a allégé les cotisations à près de 2,5 SMIC. Je ne sais pas si vous êtes ravis de ça. Bon. On a doublé les franchises médicales. Ah oui, on passe de 50 centimes à 1 euro par boîte de médoc. C'est pas le Pérou. Mais enfin, c'est quand même de l'argent qui sort d'une poche. Et puis, on a étalé, vous le savez, sur 4 ans, au lieu de le faire en une fois, la suppression de la CVAE, si chère au patronat, à tel point
oui, ça,
que
clair,
hein. L'université d'été du MEDEF, on n'a parlé que de ça cette année. C'était mais CVAE c'est... pendant 4 jours.
Enfin, je veux bien prendre le sujet, mais c'est un des poids lourds qui pénalise toutes les entreprises françaises depuis des années.
Franchement, quand vous entendez zéro hausse d'impôt, est-ce que vous considérez que c'est vrai?
Mais c'est pas une question de zéro hausse d'impôt, c'est où est-ce qu'on... On doit placer la fiscalité. On prend le sujet des médicaments que vous avez évoqués. Ben, ça me semble quand même relativement évident que le système de sécurité français dont on bénéficie tous et qu'on aime bien est quand même mal géré et pourrait être optimisé et peut-être un petit peu moins généreux sur un certain nombre de choses. Donc de dire que les Français consomment plus de médicaments globalement et qu'on devrait gérer ça de manière mieux et donc qu'on les fait payer un petit peu plus, moi je ne trouve pas ça choquant. Oui, c'est une augmentation de la fiscalité. Mais on pourrait aussi parler des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires qui ne travaillent pas à 35 heures. Il bosse à 32 heures, d'accord.
Dans les collectivités locales.
Et il refuse d'y passer. Donc ça diminue la productivité. Donc ça aussi, c'est d'autres sujets. Oui, donc il y a des endroits dans lesquels la fiscalité au sens large augmente. Le foncier, c'est globalement... on est à Paris ici, on peut parler de foncier de la mairie de Paris, qui a augmenté de 40 ou 50%, enfin, dans des proportions extraordinaires. Donc, il faut, encore une fois, c'est pas dire on fait tout dans un sens ou tout dans un autre, c'est trouver le raisonnement de long terme qui permet de dire on investit au bon endroit. Et concentrons-nous sur les dépenses d'investissement, sur les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas bien gérées.
Le mot pour définir ce qui s'est passé pendant le 20 ans de TF1, c'est pas long terme. Si c'est bien autre chose que du long terme.
C'était alors... plus technique, c'est vrai, à destination, on va dire, des marchés financiers.
Mais non, mais on part au plus pressé, quoi. D'abord, le pompier arrive, il balance de la flotte partout, quitte effectivement à abîmer des œuvres d'art. Enfin, il faut éteindre l'incendie, voilà. Les bourses au sommet. Alors, il y a les 7 magnifiques, vous les connaissez, c'est les GAFAM auxquels on ajoute Nvidia et Tesla. C'est lunaire, hein. Ils dépassent 12 000 milliards de valeur boursière à 7. Il y a les granolas. GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Il y a les Kohl aussi, comme Helmut. Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, cette situation vous a inspiré des réflexions, Emmanuel Combes?
Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est toujours ou souvent, l'Europe est complètement larguée par rapport aux États-Unis. Alors c'est vrai si on raisonne en valeur absolue, hein, vous le disiez à l'instant, les Apple, Amazon, c'est des capitalisations qui dépassent les 1000 milliards de dollars.
Microsoft est à plus de 3000.
Exactement, donc plus que 1000 milliards de dollars.
Je vous rappelle que le PIB de la France est 2450 milliards d'euros.
C'est-à-dire que oui, c'est plus que le PIB de la France. Donc oui, c'est vrai que si on raisonne en valeur absolue, on n'a pas d'équivalent en Europe. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Europe, on observe la même chose qu'aux États-Unis. Je sais pas ce qu'en pense Christian, c'est ce phénomène incroyable qui n'est pas limité au numérique. Je vais essayer de le montrer en quelques minutes, qui est ce qu'on appelle le phénomène « the winner takes all ». C'est-à-dire, il n'y a même plus de logique de secteur. C'est-à-dire, à l'intérieur même d'un secteur, vous avez des écarts de performance, mais absolument incroyable. Alors, je prends le cas de l'Europe, vous parlez des granolas. Dans les granolas, il y a le luxe. C'est un secteur que je connais bien, parce que je suis toujours intéressé à ce secteur-là, je trouve qu'il est assez passionnant. Je me suis amusé à regarder les price-earning ratios, c'est-à-dire en fait le rapport entre les bénéfices anticipés et la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le PER? C'est ce qu'anticipent les marchés de la richesse future de l'entreprise. Donc c'est vraiment tourné vers le futur.
Ça s'appelle croissance potentielle en macro.
Exactement. Et j'ai pris les quatre entreprises. J'ai pris Hermès, PER de 52.
Un PER classique, c'est 15, quoi.
Oui, c'est 10-15. Et encore, 10-15. Dans les banques, on est même en dessous de 10. Je prends LVMH. On parle de LVMH. On est à 27, presque la moitié moins. Vous prenez Kering, donc c'est la branche luxe, 17. Et vous prenez Burberry, 11. C'est-à-dire qu'au sein d'un même secteur, vous avez une entreprise qui prend tout et qui creuse les écarts. Et je me suis alors, vous pouvez faire ça à peu près sur tous les secteurs des granolas. Vous prenez ASML, en matière de semi-conducteurs.
Semi-conducteurs, c'est le pays néerlandais, lui.
Alors, certes, vous avez ST Microélectronique, etc., qui fabrique des puces. Mais ASML, il est en monopole pour pour fabriquer les machines. Il est tout seul. Il a 90% de part de marché. Et donc, c'est intéressant de voir qu'au sein même d'un secteur, la notion même de secteur n'a plus tellement de sens. Et je me suis posé la question, mais c'est dû à quoi? Et en fait, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a un effet taille. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit pas d'être excellent, il faut être aussi gros. Et ça explique aussi LVMH, Hermès. Pourquoi? Parce que vous avez des coûts fixes. Quand vous faites une campagne marketing, c'est pas la même chose de faire une campagne marketing pour la France et de faire une campagne marketing pour le monde. Enfin, le terrain de jeu de LVMH, c'est le monde entier. Donc, vous avez un effet taille. Vous avez un effet innovation. Alors, c'est pas seulement d'innovation technologique, hein, ça peut être de l'innovation excellence de la main, marketing, marque, etc. Et vous avez un troisième point que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect pure player. Est-ce qu'il n'y a pas une différence, par exemple, entre Hermès et LVMH? C'est que Hermès, c'est que du luxe, si j'ose dire, d'exception. Il n'y a pas aussi du mass market. Vous voyez, donc, prenez Ferrari dans les voitures, c'est la même chose. Ferrari ne fait qu'un type de voiture. Et même chose, vous avez un PR de Ferrari, je ne l'ai plus en tête, mais qui est absolument délirant. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, on se dit, on a bien en Europe le même phénomène qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, vous avez une entreprise qui mange le marché. Et finalement, je me suis posé la question, mais quel est le seul vrai risque pour ces entreprises européennes? En fait, ce n'est plus un risque économique. C'est un risque géopolitique.
Un marché qui se ferme.
Un marché qui se ferme. Et ce risque, il s'appelle la Chine. Alors, de deux manières. Soit en représailles. Vous le savez, les Européens veulent mettre des droits anti-subvention sur les voitures chinoises. Et les Chinois ont commencé à répliquer en ouvrant une enquête anti-dumping sur le Cointreau, sur le brandy. On pourrait tout à fait, j'espère que ça n'arrivera pas, on pourrait tout à fait imaginer demain que si l'Europe taxe les voitures chinoises, les Chinois réagissent, soit en taxant Airbus, soit en taxant le luxe. Donc finalement, ces entreprises deviennent très sensibles à un risque qui n'est même plus un risque économique, c'est un risque politique. Prenez la technologie. Le seul risque d'ASML, quand vous regardez le cours boursier d'ASML, il réagit à quoi? Il réagit aux annonces des restrictions sur les exportations de matériel sensible vers la Chine. Puisque les États-Unis font pression sur l'Europe pour que ASML n'exporte pas ses machines les plus avancées. Donc c'est intéressant, on a des entreprises dont les barrières sont tellement élevées, les barrières à l'entrée sont tellement élevées, que la probabilité qu'elles soient rejointes par un outsider, donc un nouvel entrant, sont nulles. Car même le nouvel entrant n'aura pas la taille critique. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des marques de luxe qui ne vont pas se créer. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des entreprises de semi-conducteurs qui vont se créer. Mais il y a un tel effet taille critique que de toute façon, c'est irrattrapable. Et finalement, leur seul risque n'est plus aujourd'hui, à mon sens, un risque économique, c'est un risque politique. C'est quand même assez intéressant.
Oui, allez-y, ouais, je bien aussi, ça vous inspire une
règle. Micropole, notre premier secteur, c'est le luxe, donc je connais bien toutes ces entreprises.
C'est le luxe?
Oui, effectivement, mais on travaille chez tous les grands acteurs du luxe. Ouais. Et je voulais dire, déjà, ces entreprises sont très bien gérées, très très bien gérées, au cordeau, voilà, qui ont une vision long terme. Et sur ce sujet du géopolitique, elles l'ont bien vu, parce qu'encore une fois, elles sont bien gérées. Donc le redéploiement, le fait que la Chine soit toujours un vecteur important, mais qui présente des risques, ne leur a pas échappé depuis un petit moment. Ils cherchent à se déployer aujourd'hui beaucoup au Middle East, mais la zone Asie hors Chine est aussi très importante pour eux. Et n'oublions pas que le premier marché reste quand même les États-Unis, hein, y compris pour LVMH, etc. Mais encore une fois, ces entreprises, ce qui les différencie, c'est en permanence d'innover. Oui, c'est peut-être ça qui lie par rapport à la technologie. Alors, pas innover technologiquement, même si elles sont très présentes sur des tas de sujets sur lesquels nous, d'ailleurs, nous intervenons en partie, bien évidemment, mais elles essaient toujours d'être à l'excellence, de proposer les meilleurs produits, de capter... ce qui va se passer après-demain, on voit les marques du luxe, on aurait pu dire, elles auraient pu un peu se regarder. Regardez Hermès avec son carré, bon, qui était peut-être de nos mères ou quoi que ce soit. Ben aujourd'hui, ils attaquent des populations beaucoup plus jeunes parce qu'ils ont su innover. Encore une fois, c'est ce sujet de, en permanence, avoir du moyen et long terme et de trouver les bons vecteurs de développement. Quant à la tech, oui, effectivement, là, c'est un sujet. Mais la tech, je pense, a des cycles beaucoup plus courts que le luxe, quand même, grosso modo. Hein, ça bouge en permanence. Les acteurs qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas obligatoirement les acteurs dominants, mis à part Microsoft, peut-être il y a 15-20 ans. Au passage, suivez Sora. Hein, c'est vraiment, ça vient de sortir.
Sora, c'est OpenAI, là.
C'est OpenAI, il a la partie, les vidéos.
L'intelligence artificielle va créer des vidéos de quelques minutes.
Ah oui, quelques secondes. C'est une minute pour l'instant.
À partir de données. Et la vidéo est à un réalisme comme si elle était réelle. Donc, ça ouvre toutes les craintes à toute la désinformation.
Voilà. En novembre 22, c'était un des premiers sur cette antenne à dire regardez ChatGPT, mais il a regardé Sora, c'est assez
fascinant. Sora, c'est fascinant.
Maintenant, c'est une lutte permanente et effectivement, il faut des moyens très forts. Et puis, dernier point pour passer la parole peut-être aux autres, le sujet, l'Europe là-dessus n'est pas morte. C'est le sujet, c'est la data. Il faut que l'Europe profite de ces data pour avoir un poids aussi fort soit-il vis-à-vis des GAFA.
Et c'est un peu ce que dit Gilles Babinet dans sa énième chronique des Échos ce matin.
Exactement.
Gilles Raveau, par rapport à ce qu'on est en train de se raconter, qui n'a plus rien à voir avec Bruno Le Maire.
Non,
Sauf si vous me voyez un lien. Mais...
Non, non.
Je pense pas.
J'ai beaucoup aimé le monologue d'Emmanuel Combes, je chronométrerai après l'émission.
Ah, ça y est.
Pour voir s'il a été plus long que moi ou pas.
Oui, mais bon, on fera
la question, c'est j'étais meilleur que toi.
On fera la, ben voilà, on fera la compétition. La... Non, mais comme tu m'avais
cette compétition entre économistes.
Comme tu m'avais entre profs. Comme tu m'avais reproché ma longueur, c'est pour ça que je me permets cette petite taquinerie. Bon, non, mais par contre, effectivement, c'était extrêmement intéressant. Mais je remercie le professeur Combes de nous avoir appris tout ça que j'ignorais totalement. La réflexion, malgré tout, que ça m'inspire, c'est que ce qui nous est décrit là, c'est un monde très peu concurrentiel. C'est ça le grand paradoxe. Non. C'est-à-dire que nous avons une mondialisation qui, à la fois, crée un monde hyper concurrentiel, mais dont le résultat, et c'est le résultat bien connu de fonctionnement spontané de l'économie de marché, c'est que vous avez quelques acteurs très très gros qui ont, comme vous l'avez très bien décrit, un énorme pouvoir économique et aussi, ce qui va avec, un énorme pouvoir politique. Et ces monstres économiques participent du très grand malaise démocratique qu'on a aujourd'hui. C'est que justement, pour ne pas le citer, quelqu'un comme Bruno Le Maire est un nain absolu par rapport au PDG de ces entreprises qui, comme vous l'avez très bien dit, résonnent à l'échelle mondiale, ont des stratégies à l'échelle mondiale, et ça a des conséquences très concrètes sur le fonctionnement de la démocratie, par exemple dans la concentration des médias. Donc là, on retombe en fait, et c'est ce que j'explique ici à chaque fois, et c'est ce qu'on est de plus en plus d'économistes à dire, hein, des gens aussi différents que Thomas Piketty, que Danny Roderick, que Joseph Stiglitz, c'est qu'on a un retour du vieux combat entre capitalisme et démocratie. C'est-à-dire que là, on a exactement un fonctionnement très capitalistique,
c'est le capitalisme
avec une concentration du pouvoir politique, avec une concentration du pouvoir économique, et il faut vraiment être très aveugle
plus subtil.
Pour... Bon, je vois que mes petits camarades commencent à s'agiter, et je donne juste un dernier point. Ben, c'est fou quand même, hein, vous êtes... On voit quand même que vous allez pas bien, parce que vraiment, vous...
Vous savez que la parole est libre ici, vous avez le droit de développer une idée.
Je suis assez détendu.
Je vais vous brider, les poules auront des crocs.
Mais c'est n'importe quoi.
Donc laissez le finir, sinon il ne finira pas.
Ouais, c'est ça. J'ai un truc évident, mais c'est marrant. Okay, mais bon, bref. Et qui n'est pas du tout. C'est ça qui est marrant. Je ne contredis pas du tout ce que vous dites. Ça qui est marrant. Je me suis totalement appuyé sur vos résultats empiriques pour en tirer des conclusions politiques évidentes, qui, encore une fois, sont quand même soulignées par les plus grands esprits de la planète. Donc voilà, pardon. Et deuxième point, ça montre l'échec total de la politique de concurrence de l'Union européenne.
Non mais puisque Nicolas, comment alors, peut-on laisser dire sur cette
Christian
antenne
Boyau.
Que c'est le capitalisme qui menace la démocratie? Enfin, c'est une hérésie totale, mais c'est du grand n'importe quoi.
Je vous écoute.
Vous savez qui est mort en Sibérie là, il y a deux jours là? Ça vous dit quelque chose? Vous allez souvent en Chine, Gilles, pour voir un petit peu ce qui se passe? C'est les régimes démocratiques qui menacent, qui sont sous l'égide du capitalisme, qui menacent la démocratie. Mais enfin, on marche complètement sur la tête. Enfin, je veux dire, faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est gravissime. C'est gravissime ce que vous dites, c'est gravissime, hein, sincèrement.
Mais Christian, là, ce que vous dites n'a rien à voir avec ce que je viens de dire.
Ah bon? Parce qu'on n'est pas en démocratie? On n'est pas en démocratie.
J'ai pas du tout dit ça.
Justement, vous avez les entrepreneurs qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent créer des nouvelles aventures, se développer à l'international, créer de la richesse. Enfin, vous voyez, ça, c'est dangereux comme raisonnement. Je suis souvent d'accord avec vous sur plusieurs choses, mais laisser penser que le capitalisme est contre la démocratie, mais c'est hallucinatoire. Hallucinatoire.
Nicolas,
Emmanuel Combes.
Non, je voudrais revenir sur un point qui est capital. J'en ai même fait deux livres, au PUF, la concurrence. Donc, c'est un sujet sur lequel je bosse quand même depuis 35 ans. J'ai fait une version anglaise qui s'appelle « Comment parler de la concurrence comme un expert ?» La concurrence, pardon Gilles, c'est pas ce que vous avez décrit. Donc moi, je ne discuterai même pas de la conséquence que vous en tirez, même si je suis comme Christian choqué. Je discute votre prémisse. La concurrence, c'est pas quand on est nombreux. Pardon, ça c'est une vision de la concurrence, peut-être en microéconomie, la concurrence pure et parfaite, mais comme je l'explique dans mon livre et comme l'expliquent tous les économistes, d'ailleurs on dit en anglais « competition on the merits », la concurrence c'est quoi? C'est nous sommes très nombreux au départ, comme dans une course, puis à la fin il y en a un qui est meilleur que les autres et il termine le premier. La concurrence, pardon, c'est quand on est tout seul. Alors la différence entre un monopole et la concurrence, c'est que le monopole, il est tout seul et il empêche les autres de rentrer. Et là, il y a un droit qui s'appelle le droit de l'abus de position dominante. Personne n'a jamais reproché à Google d'avoir 92% de parts de marché. J'ai été à l'autorité de la concurrence vice-président pendant 10 ans. On n'a jamais reproché à la moindre entreprise d'être en position dominante si elle est meilleure que les autres. Par contre, quand on est meilleur que les autres, on a ce qu'on appelle une responsabilité particulière qui est de ne pas empêcher l'entrée de nouveaux concurrents par des moyens qui ne sont pas des moyens licites.
Dieu sait si avec ces
accords d'exclusivité, vente liée, etc. Donc non, vous vous trompez. Le fait d'être en soi leader, c'est souvent le résultat du mérite. En clair, j'ai une technologie meilleure que les autres, j'innove. Au fond, le vrai sujet pour l'économiste, la concurrence, c'est quoi? C'est la contestabilité. Ce qu'il faut, c'est que vous avez le droit d'être tout le temps le meilleur. Par contre, il faut que si quelqu'un aussi bon que vous rentre, vous ne l'empêchiez pas d'entrer. Mais tout ça est prévu par le droit de la concurrence. Alors après qu'il soit trop lent, je suis d'accord avec vous, les décisions de l'autorité de la commission sont beaucoup trop lentes, mais dire que c'est la preuve que la concurrence n'existe pas, non, vous ne pouvez pas déduire du fait que j'ai une forte part de marché, que ce n'est pas de la concurrence. La concurrence, c'est, d'ailleurs en anglais ça se dit competition, quand on fait une course, sauf quand on est un enfant, le but c'est pas qu'on arrive tous à la ligne d'arrivée en même temps. Non, c'est qu'il y en a un qui gagne, ça s'appelle le winner, et puis après il y a le second et le troisième. Et la concurrence, c'est que celui qui reste le premier parce qu'il est le meilleur et non pas parce qu'il empêche le numéro 2 et le numéro 3 de marcher. Ce qui fait que pour un économiste, le vrai indicateur de la concurrence, c'est pas le nombre d'entreprises, c'est la turbulence du marché. Un marché de concurrence, c'est un marché où le numéro 1 se dit peut-être que demain, je ne serai plus numéro 1. Je suis Nvidia. Je fais des cartes graphiques, mais peut-être que demain, AMD ou Apple vont venir me contester. Et d'ailleurs, regardez Gilles, sur certains secteurs numériques, il y a de la concurrence entre les GAFAM. Regardez la publicité digitale. Vous aviez deux acteurs, vous aviez Meta et vous aviez Google. Ben, vous en avez un troisième qui s'est invité.
Meta, c'est Facebook.
Qui s'appelle Amazon. Parce que quand vous faites une recherche sur Amazon, a priori, c'est que vous voulez acheter un produit. Donc si vous êtes un annonceur, il est très pertinent de faire de la publicité sur Amazon.com. Donc même au sein des GAFAM, il peut y avoir parfois une forme de concurrence. Donc attention, la concurrence, ce n'est pas quand on est nombreux. La concurrence, c'est quand un nouvel entrant peut rentrer. Pardon pour ce petit tunnel de cours, mais c'est important.
Question Poyot, je ne sais pas si Gilles voudra rajouter quelque chose.
Cette notion de concurrence qui est à la base d'économie de marché, donc du capitalisme, on prend la Chine à l'heure actuelle, que j'y étais en début décembre. Ben, je veux dire que pour moi, un des principaux problèmes de la Chine dans le moyen long terme, c'est le fait que l'esprit d'initiative a été en partie tué par les décisions prises par le politique, notamment vis-à-vis de gens comme Jack Ma, etc., qui, au niveau des entreprises,
C'est Alibaba, hein.
C'est Alibaba, oui. Qui est, en clair, ils ont été bridés, quoi. Si je veux dire. Je peux dire qu'on le constate sur le terrain. Alors, la Chine, c'est grand, hein. C'est difficile de tirer des conclusions définitives, mais on sent que l'esprit d'initiative, eh bien, a été freiné. Dans le sens, si je sors la tête du bois, je vais me faire tirer dessus globalement. Et en dehors du sujet démographique, qui est un gros problème de la Chine, le fait d'avoir bridé cet esprit d'initiative, ouais, pour moi, est le principal problème qu'ils vont avoir dans les années à venir.
C'est très important ce que dit Christian et les travaux de Philippe Aguillon qui montrent exactement ça, qui montrent que la Chine n'arrivera pas à prendre le leadership dans la technologie parce qu'elle n'a pas la liberté académique. Or, un chercheur a besoin de liberté académique.
Comme une entreprise.
Comme une entreprise.
C'est la différence avec la SNCF.
Je voudrais, allez-y, Gilles. Juste pour éclairer, je pense effectivement le débat était de très haute qualité. Je voudrais juste donner deux références aux auditeurs.
Allez-y.
Joseph Stiglitz, hein, son livre « Pouvoir, peuple et profit », où il écrit explicitement que les États-Unis ne sont plus réellement une démocratie du fait de la concentration du pouvoir économique. Joseph Stiglitz. Deuxième livre, on a parlé des différences de productivité entre Europe et les États-Unis. Angus Deaton, prix Nobel d'économie, mort de désespoir, qui fait le lien entre le fonctionnement de l'économie de marché du type américain et l'extraordinaire chute de l'espérance de vie des Américains depuis 15 ans. Voilà.
Alors,
Là où il faut...
Je vous dis juste ça. Lisez-les.
C'est quand même, les Américains ont su mettre en place des autorités antitrust qui ont su, passé...
Le problème des États-Unis, c'est qu'ils n'ont plus fait de politique de la concurrence pendant 20 ans. Ils ont laissé les GAFA. En ce sens, je rejoins Gilles.
Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est écrite. Mais on voit bien que le Congrès a pris conscience.
Mais pendant 20 ans, c'est pour ça quand on dit les Européens sont les grands naïfs parce qu'ils ont une politique de concurrence. Non, ils n'ont pas de GAFAM, mais ils ont une bonne politique de concurrence. Les Américains, ils ont des GAFAM, mais ils n'ont pas de politique de concurrence. Non, ils l'ont mis en sommeil pendant 20 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont réussi par leur mérite, les Google et autres, parfois, parfois, on franchit la ligne rouge et on voulu rester en position dominante par des moyens qui ne relèvent pas de la concurrence par les mérites. Mais ça, c'est le job du régulateur.
J'ai quand même l'impression que les États-Unis restent une démocratie.
Non, ça, c'est un autre sujet. Moi, je ne rentrerai pas sur ça. Je reste économiste. Mais vous lisez les travaux de Philippon, c'est exactement ce qu'il vous raconte. Il vous dit le problème des États-Unis, ce n'est pas que c'est concentré, c'est qu'il n'y a aucun instrument pour lutter contre la concentration industrielle. Donc, quelque part, je rejoins Gilles.
Il y a les instruments, il suffit de les.
On est d'accord. Quelque part, je rejoins Gilles hein, sur le fait que les États-Unis ont mis en sommeil leur régulation pendant 20 ans. Mais tout le monde est d'accord là-dessus.
Et le fait que les États-Unis restent une démocratie, je pense que tout le monde est d'accord aussi. Alors, imparfaite, et je préfère les démocraties européennes à la démocratie américaine, tout à fait honnêtement, parce qu'effectivement, il y a des exagérations qui ne sont pas assez contrôlées du point de vue de la concurrence ou l'utilisation de produits pharmaceutiques qui ont amené à la baisse de l'espérance de vie, etc. Mais enfin, on va pas quand même pas comparer la démocratie américaine par rapport à la démocratie russe ou la démocratie chinoise, non ? Je sais pas. Ou alors, on marche sur la tête quand même.
Bah, c'est ce que vous avez fait tout seul, hein. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Encore une fois, pardon. Gilles. Angus Deaton, Joseph Stiglitz, des sociodémocrates extrêmement ces meilleurs esprits que nous tous ici, hein, des géants de leur discipline, des gens très sérieux, qui ont occupé tout un tas de fonctions dans le public, dans le privé. Pardon encore une fois. Je crois que la connaissance, ça existe. Moi, mon travail, c'est d'abord de lire les meilleurs. Voilà,
Supposer qu'on lit pas les meilleurs. Moi, je dis Philippe Aguillon, il dit exactement la même chose. Philippe vous dit, en fait, le problème des GAFAM, c'est que c'était des outsiders qui ont gagné par leur mérite, parce que Google Search, je suis désolé, c'est meilleur que Quant, hein, on va arrêter. La question, c'est que les outsiders sont devenus des insiders. Un insider, il aime bien fermer la porte, c'est naturel. Et ça s'appelle mettre des barrières à l'entrée, dont certaines sont illégales. Donc on se rejoint, mais vous pouvez pas dire il n'y a pas que Deaton et Piketty. Aguillon, c'est aussi très intéressant. Et finalement, tous les économistes le disent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas. Si tu veux dire par là qu'aux États-Unis il n'y a pas assez de concurrence, mais excuse-moi, on le sait depuis 10 ans. Tu lis Philippon, tous les marchés sont des marchés très concentrés aux États-Unis. Et on voit bien que c'est le problème qu'a voulu adresser Biden. D'ailleurs, hein. Alors, je sais pas s'il a fait grand-chose, hein, mais il le disait très clairement en disant, au bout d'un moment, trop de pouvoir, trop de concentration, ça nuit, forcément, ça nuit au pouvoir d'achat et ça nuit à la croissance. Mais je suis en différence avec Gilles, c'est ce qu'il ne voit pas, c'est le côté dialectique. C'est-à-dire, au fond, les outsiders d'hier qui ont fait la croissance américaine sont devenus des insiders. Aujourd'hui, il faut remettre de la contestabilité. C'est-à-dire, il faut remettre de l'ouverture. Et l'ouverture, elle ne vient pas tout seul. Hein. C'est le rôle des régulateurs. C'est le rôle d'une politique antitrust puissante. Moi, je suis convaincu que l'avenir est à l'antitrust.
Non. Il y a toujours une autorité antitrust aux États-Unis.
Bien sûr, mais après, c'est la volonté politique.
Ce qui s'est aggravé par rapport à l'exemple qu'on sort à chaque fois, le 1904, la Standard Oil et les compagnies, c'est qu'en fait,
ces sujets dans les années 80.
Sont plus uniquement des sujets d'antitrust dans le marché américain, mais sont des sujets d'outils géopolitiques vis-à-vis des dictatures qui représentent les pays qu'on a pu citer. C'est là où il y a une problématique.
On a 2 minutes, vous voulez parler de quoi ? J'ai productivité US-Europe, j'ai le CDI senior.
Ah, le CDI senior, oui, là.
Bon, CDI senior, idée du patronat jeudi, pour faire travailler les plus de 60 ans. Probablement, on va les prendre en CDI, mais avec un salaire un peu inférieur. Et du coup, le patronat dit, pour avoir le même salaire qu'avant, c'est l'assurance chômage qui prend le relais.
Non, mais moi,
c'est un grand classique. Hein,
alors, c'est un sujet très, très pointu.
Moi, je ne
prétends pas être l'expert du sujet, mais c'est aussi caractéristique, je pense, de la manière dont il faut voir les choses, entre guillemets. J'ai entendu qu'il y a un syndicat, je ne sais plus lequel, donc comme ça, j'en viserai aucun, qui disait, il faut durcir les conditions de licenciement des gens de plus de 55 ans.
Mais
c'est ce qui a été fait il y a des années. C'était une catastrophe totale. Donc c'est vraiment l'archétype de la mauvaise solution. Enfin, c'est vraiment
Mais on les connaît.
Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que les syndicats qui jouent et doivent jouer un rôle important dans le tissu économique français sont encore, certains d'entre eux, arc-boutés sur des solutions qui n'ont pas de sens. Donc, on sait très bien que la productivité avec l'âge, elle va en décroissance. Je ne sais pas si c'est normal, c'est biologique, quoi, on va dire ça comme ça. Par contre, on peut avoir d'autres capacités, etc. Donc, d'adapter le coût et en général, le salaire accru, puisqu'en France, on a une logique où le salaire augmente, quel que soit aux fonctions de l'âge dans beaucoup d'entreprises. Donc, on se retrouve dans un collapse dans ces années-là.
Donc, vous dites pourquoi pas.
Mais oui, pourquoi pas. Enfin, il faut essayer, alors, en trouvant des bornes, etc. Mais il faut trouver une solution de
Gilles,
ce point de vue.
Un avis là-dessus, parce qu'il faut qu'on arrête. Dans
une proposition pour être sûr de faire réagir mes amis. On a une énorme faiblesse du dialogue social en France, on le sait tous. Et donc, j'ai une proposition simple qui avait été faite par la grande économiste Ségolène Royal en son temps, qui serait la syndicalisation obligatoire à la fois des travailleurs et aussi des chefs d'entreprise.
Mais alors moi je OK.
Et ça renouvellerait profondément nos organisations syndicales qui ne sont représentatives ni du côté salarial ni du côté employeur, et c'est le principal problème. Comme l'a très bien dit je sais plus qui dans une autre émission, effectivement le dialogue social en France, c'est deux bureaucraties qui se rencontrent, qui sont toutes les deux coupées du terrain. Et donc je pense que pour renouveler très profondément ces institutions, il y a un moyen très simple: tout le monde sera obligé de se syndiquer.
Mais alors ok, je suis hyper d'accord avec ces
questions.
Mais Gilles, ça veut dire qu'il faut que intellectuellement les syndicats redeviennent des syndicats
mais ils le redeviendront nécessairement
modernes.
Moi je vais me permettre de...
Non mais ils le redeviendront nécessairement par là-bas, c'est la démocratie.
Oui, c'est un effet d'entraînement.
Et ben oui, vous voyez que je suis un grand démocrate.
On est même pas choqué.
Fini, là. Même pas laisser dire que le MEDEF est même pas du terrain.
Consensus.
Le un démocrate éclairé, donc finalement. Voilà.
Un démocrate consensuel.
Gilles Raveau est passé de dictateur éclairé à démocrate consensuel.
Mais oui.
Bah, il faut venir plus souvent, hein, parce que je ne sais pas ce que vous serez dans une heure.
Donc le MEDEF est les pieds sur le terrain.
On arrête, c'est fini. Merci beaucoup, Emmanuel Combes, Christian Poyot, Gilles Raveau. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.